5 minutes pour respirer, 5 minutes pour s'aérer, 5 minutes contre la pression qui monte.
FM 93.1 à Paris dans Respiration. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un thème sur le zen et la permaculture. Je vous propose une rencontre avec Raymond Holbrich pour la parution de Sol Vivant, Parole vivante, vision d'un permaculteur zen aux éditions L'Originel Charles Anthony. Illustré aujourd'hui par le disque de Brad Stank, Eternal Slowdown. Donc on écoute, on sera aussi en compagnie d'Olivier Tolu des éditions L'Originel. Alors on écoute un premier morceau de Brad Stank, Pond Weed.
With you. working on the...
Vous êtes sur Aligre FM 93.1 à Paris dans Respiration. Alors nous sommes là aujourd'hui pour parler d'un livre d'entretien qui a été recueilli par Olivier Tolu des éditions L'Originel Charles Anthony. Alors tout d'abord, eh bien, bonjour Olivier.
Bonjour Louise, merci pour cette invitation.
Avec plaisir. Alors présentez-nous en quelques mots la particularité de cette maison d'édition.
Eh bien, L'Originel Charles Anthony, c'est une maison d'édition pionnière dans le domaine de la spiritualité qui a été fondée en 1977 par Charles Anthony et qui a été reprise il y a quelques années par Jonas Endres et une nouvelle petite équipe où on donne un nouveau souffle à cette maison d'édition. On publie principalement des livres de spiritualité d'Asie, souvent sur le bouddhisme, le yoga, le tai chi, on a les arts martiaux, par exemple, pour vous donner... une de nos dernières publications, c'est sur l'aïkido. Et puis, on publie aussi des textes d'auteurs reconnus, comme Annick de Souzenel, dernièrement, qui a intégré une nouvelle collection qui s'appelle « Le cercle des vivants ». Et aujourd'hui, on va parler donc de ce livre qui est assez original, puisque c'est notre premier livre sur l'écologie.
Très bien. Oui, Annick de Souzenel, une grande dame. Alors, bonjour Raymond.
Bonjour Louise.
Alors on est là pour parler de vos propos, de votre parcours de vie qui a donc été recueilli par Olivier. Donc vous êtes jardinier du temple La Gendronnière, un centre zen depuis 50 ans. Vous êtes moine zen dans la tradition du zen Soto. Alors dites-moi, comment s'est fait la rencontre avec le zen ?
Écoutez, pour moi, c'était, j'étais à l'époque dans le sud de la France, dans une communauté hippie, déjà depuis quelques années où j'ai eu toute une recherche très globale qui incluait, où la spiritualité était au centre. Mm-hmm. J'ai cherché une voie spirituelle ardemment et j'ai rencontré une personne au hasard, enfin... C'était pas un hasard, puisque c'était la personne qui m'a indiqué d'aller au temple de la Gendronnière où un grand maître zen japonais a commencé un temple. Voilà. Donc je suis allé et pour moi c'était dans un grand événement, la rencontre avec maître Deshimaru, parce que j'ai senti que c'était... vraiment la voie que je voulais suivre. Pour moi, c'était d'une évidence fulgurante, on peut dire. Mmh. S'il y avait vraiment un événement qui m'a beaucoup marqué et qui m'a donc marqué pour ma vie. Et depuis, ça fait plus que 40 ans maintenant que je pratique cette pratique et ça a complètement bouleversé ma vie.
Ouais. Très bien. Alors, effectivement, Maître Deshimaru donc, transmettait une énergie vibrante, j'imagine, comme le font les grands maîtres.
Oui, absolument. Hein. C'est ce qu'on peut dire, enfin, ce qui est la caractéristique de Deshimaru, peut-être. C'est ça, c'est une grande énergie, c'est vraiment un lion, c'est un tigre, un lion, c'est quelqu'un qui a une très grande énergie.
Un très grand qui, comme on peut dire.
Oui, très bien. Alors, je vais vous demander justement, Olivier, puisque j'ai oublié mes lunettes, de lire le texte que j'ai sélectionné.
Oui, d'accord, volontiers.
De Deshimaru, qui va bien dans le sens de votre recherche, Raymond.
Oui, donc c'est un petit extrait d'un enseignement de Maître Deshimaru qui dit « Une grande crise surgira partout. La cause en est que la civilisation s'oppose à la nature. Les êtres humains veulent diriger le globe et le cosmos. Aussi, une crise se prépare-t-elle. Notre existence étant en relation d'interdépendance avec toutes les existences du cosmos, il est inévitable que l'esprit de l'homme influence le cosmos. C'est pourquoi, entre autres choses, le climat change. Si l'homme s'oppose à l'ordre cosmique, quelque chose de fâcheux se produit. L'homme doit suivre la nature, l'ordre cosmique. Les hommes préhistoriques l'avaient compris par intuition, mais les hommes contemporains l'ont oublié. C'est la racine du problème. » Alors, ce qui est intéressant avec ce texte, c'est qu'en fait, Maître Deshimaru est décédé en 1982, donc ça date du début des années 80, et il a déjà cette intuition déjà très forte de la crise que nous connaissons aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Donc c'est très très bien. Alors, moi je voudrais quand même préciser une chose, Raymond, pour nos auditeurs, hein, puisqu'on est, on parle du zen et tout le monde ne connaît pas les termes. Donc, j'ai noté que votre vie est rythmée par la pratique de zazen le matin, puis par le samu. Alors, est-ce que vous pourriez nous décrire ce qu'est le samu ?
Oui. Dans le zen, nous, on pratique ce qu'on appelle le zazen, la méditation zen. Et c'est le pilier de la pratique. Et il y a une deuxième pratique, hein, qui est la pratique dans la vie quotidienne. Et dans cette pratique dans la vie quotidienne, particulièrement, on donne l'accent sur les activités quotidiennes. C'est-à-dire faire à manger, faire la vaisselle, et ça peut impliquer toutes les autres activités de la vie quotidienne, inclus le jardinage, quelconque bricolage, même des travaux intellectuels, éventuellement, ça peut faire le samu. C'est-à-dire, c'est la prolongation de l'état d'esprit de la méditation dans la vie quotidienne. C'est-à-dire que là, on pratique la même concentration-observation qui est indiquée dans la méditation, c'est-à-dire ici et maintenant, on est concentré sur ce qu'on fait et en même temps, on est ouvert à tout l'univers. C'est ça l'attitude d'esprit du samu. En même temps, c'est aussi une activité qui a la caractéristique d'être complètement désintéressé. C'est-à-dire, on est dans une attitude de désintéressement, on ne poursuit pas des buts personnels, c'est une attitude de service. D'abord, service à la communauté, mais on peut l'élargir sur service à l'univers. Voilà ce qui est le samu.
Très bien, c'est éclairant. Oui, il faut préciser en fait que l'idée du zen, et vous êtes d'accord avec moi, j'en suis sûre, c'est au-delà de la pratique, eh bien, qu'elle soit dans notre vie quotidienne. D'ailleurs, Deshimaru a écrit un livre qui s'appelle « Zen et vie quotidienne ».
Oui, absolument, oui. Voilà. C'est une prolongation. Oui.
Tout à fait. Alors donc, on va commencer à parler donc, de votre travail, hein, donc, de jardinier. Donc vous avez tenu à ce que ce ne soit pas une exploitation maraîchère à la gendronnière. Vous avez tenu à faire différemment pour que ce soit un jardin où on se sente bien. Comment avez-vous procédé pour ce faire?
D'accord. Bon, il faut dire que pourquoi je dis ça, c'est que moi je suis maraîcher professionnel, c'est-à-dire j'ai vécu dans le monde agricole et dans le monde agricole aujourd'hui on le parle moins en moins de ferme, hein, on parle d'exploitation agricole, hein, qui veut tout dire, c'est-à-dire on exploite la terre, on en tire un profit et on n'est pas tellement dans l'esprit de respecter la nature, de respecter l'environnement, de respecter le vivant. Et moi, j'ai voulu faire une autre démarche À un moment donné, j'ai pu travailler donc à la gendarmerie. Et ça m'a permis d'avoir un autre cadre dans lequel on pouvait expérimenter un autre rapport avec le travail et avec les productions agricoles. C'est-à-dire que c'est une vision de ne pas séparer les choses. C'est-à-dire que quand je suis dans une exploitation agricole, je suis dans un environnement hostile à l'humain presque. Hein, je suis sur un tracteur, ou je suis un tracteur, ou je suis dans les machines, je suis éventuellement, je suis dans une situation dans laquelle je dois produire, je dois suivre le rythme de la machine, je dois m'aliéner. Voilà, on peut dire ça, il y a une aliénation qui se fait. C'est dur, le travail c'est dur, etc. Aussi, le paysage d'une exploitation agricole n'a rien d'attirant. C'est quelque chose qui est plutôt laid. Hein. Tout ce qui traîne là comme matériaux, etc. Voilà, ça n'a rien d'attirant pour quelqu'un. Voilà.
Très bien. On va faire une petite pause musicale et on continuera à vous écouter sur ce sujet. Hein. Je crois que même le terme exploitation déjà nous donne une idée du problème. Mmh. Alors, on continue à écouter les morceaux du disque de Brad Stink, Eternal Slowdown. Donc, un morceau qui s'appelle Condemned to be Freaky. Donc moi, je choisis les morceaux vraiment par rapport à l'ambiance musicale. Hein. Donc les lyrics de Brad Stink, c'est une autre affaire. Alors allons-y.
Get them on my
Vous êtes sur Aligre FM 93.1 à Paris dans Respiration. Et je suis aujourd'hui avec Raymond Holbrich pour son ouvrage Sol vivant, parole vivante, vision d'un permaculteur zen. Alors Raymond, parlez-nous maintenant de votre résultat, de votre beau jardin qui n'est pas une exploitation maraîchère.
Oui, ce que je voulais réaliser, c'est ça, c'est-à-dire faire de la production tout en vivant dans un endroit qui est agréable d'être et de vivre. Et donc, effectivement, il y avait déjà c'était un jardin de château, donc il y avait déjà une base esthétique, on peut dire, entourée d'un mur. Donc ça a bien sûr aidé à cette ambiance. Et après, on a essayé d'aménager ce jardin d'une manière que la production et l'esthétique soient en harmonie. C'est-à-dire que en même temps on produit, mais on soigne aussi le lieu. Et on le soigne aussi par le fait de respecter le lieu, c'est-à-dire les plantes qui sont là, les arbres qui sont là. Et dans toutes les actions qu'on fait dans ce jardin, on ne va pas avoir un esprit simplement d'exploitation, mais un esprit de respect envers le vivant qui est là. Et c'est ça qui fait toute la différence. Dès qu'on est dans cet esprit-là, et justement c'est la prolongation de ce qu'on a dit tout à l'heure sur le Samu, dans un esprit de Samu, automatiquement, on est dans ce respect du vivant. Et on a pu réaliser ça à la Gendronnière. C'est-à-dire, c'est un lieu qui produit les légumes nécessaires à la cuisine pour beaucoup de personnes qui passent par là. Et en même temps, c'est un lieu dans lequel on peut aussi tout simplement y aller pour être bien, pour contempler la nature. Et même pendant qu'on travaille dans ce lieu, on est dans un environnement qui, en même temps qu'on travaille, invite à la contemplation. On est bien. Et je pense que c'est ça aussi l'essentiel, c'est ce qu'on peut vivre dans ce lieu, c'est le reflet du lieu. C'est-à-dire que ce qu'on vit dans une exploitation agricole, c'est forcément quelque chose de désagréable. Alors que là, travailler dans un lieu comme ça, déjà, à la base, c'est agréable. Donc, moi, mon idée, c'est de dépasser ces catégories de travail et de vacances et de je dois travailler dur et après je peux me reposer, etc. Dans ma vie, j'ai toujours mis en cause ces séparations des espaces et des temps.
Oui, je l'avais noté dans votre livre. Je voulais que tous les jours soient la vraie vie.
Voilà.
C'est joli, ça.
Oui, que tous les jours soient la vraie vie, c'est-à-dire que dans toutes les activités, même ceux qu'on considère qu'on veut les faire rapidement pour passer à autre chose plus intéressant. Là, on rejoint un peu l'esprit zen, hein, c'est-à-dire que toute activité est une activité dans laquelle on s'accomplit. C'est-à-dire faire la vaisselle, par exemple, ou nettoyer les toilettes. Oui, là aussi, on se réalise. Et si on voit les choses comme ça, notre vie quotidienne, il devient la vraie vie. Et c'est ça, vivre. Pour moi, c'était l'objectif donc de vivre cet esprit-là.
Alors, je vous cite encore, vous avez écrit « Cherchez le beau, le bon, le vrai, ce qui est authentique, la vie telle qu'elle, l'essentiel. »
Oui.
Donc c'est dans le moment présent qu'on peut trouver tout ça.
Exactement, exactement. C'est vivre, être concentré, être ouvert à ce qu'on fait, exactement, dans le moment. Mais en même temps, c'est aussi de se sentir baigné dans l'univers. Hein, c'est ça un peu ce que, entre autres, la méditation zen nous amène à vivre. Hein, cette globalité des choses dans lesquelles on est bercé comme individu, qui nous ouvre à l'univers, mais en même temps, on est dans ce geste du quotidien qui est relié à cette globalité. Et quand on peut vivre ces deux aspects qui, en même temps, c'est pour moi, c'est ça la vraie vie. C'est de vibrer dans l'instant présent et en même temps vibrer dans l'univers.
Mmh. Alors, j'avais une autre question à vous poser en vous lisant. En quoi la liberté pour vous est de suivre l'ordre cosmique comme le font les plantes, les animaux, les insectes?
Oui. J'ai dit ça, suivre l'ordre cosmique, c'était une recommandation de Maître Deshimaru qui l'a répété des nombreuses fois.
D'accord.
C'est quelque chose qui est dans son enseignement, qui est central, suivre l'ordre cosmique. Et effectivement, dans l'humanité s'est écartée de cette invitation de vivre l'ordre cosmique. Pourtant, c'est là où on trouve l'harmonie, où on trouve... on peut dire le bonheur, si on veut. C'est pas un mot que j'aime beaucoup évoquer, mais bon, parce que ça a trop de connotations. Mais oui, voilà, c'est en suivant l'ordre cosmique qu'on est bien. On est bien dans son corps, on est bien avec soi-même, on est bien avec la vie. Et l'homme, il a... il s'est séparé. Enfin, c'est le seul être vivant qui est capable de se voir séparé de l'univers. Hein, parce qu'on est intimement lié, on sait qu'on est complètement interdépendant avec tout le vivant. Mais l'homme, il peut se séparer de cette vision d'interdépendance et regarder le monde de l'extérieur et se séparer et s'isoler dans la pensée, mais aussi dans l'action, et ne plus suivre l'ordre cosmique sous prétexte d'exercer sa liberté. Aujourd'hui, dans la société, la liberté, elle est considérée comme je fais ce que je veux, je me réalise en choisissant ce que je veux, etc. C'est de l'ordre du désir égoïste. C'est ça qu'on considère comme la liberté. C'est une notion, c'est une vision de la liberté qui me semble être erronée. Et on le voit, elle n'amène pas à un sentiment d'harmonie avec la vie.
Oui, alors au travers de votre expérience de moine zen, hein, je propose après la pause musicale qu'on va faire maintenant, vous pourrez peut-être nous parler de la liberté qu'apporte le zen, qui est une pratique quand même avec un cadre très...
rigide.
Rigide, ouais. Et du paradoxe qui est d'y trouver une grande liberté. Ouais. Alors, on prend une petite pause pour y réfléchir et on écoute un autre titre de Brad Stank, Take Me to the Crib. Thank you. compagnie du moine zen Raymond Holbridge pour la parution de son livre « Sol vivant, paroles vivantes » aux éditions L'Originelle Charles Anthony. Alors Raymond, on parlait de liberté dans le cadre du zen.
Oui, justement, l'homme, il s'est séparé. Hein, il se vit comme séparé du cosmos. On le considère quelque chose de souvent comme quelque chose de. Il a la liberté de suivre l'ordre cosmique ou pas. Hein, et il pense à la liberté, c'est justement se réaliser soi-même, tous les désirs qu'il a, etc., etc. Il pense que c'est ça, sa liberté. Cette séparation, elle est décrite dans le fait d'être chassé du paradis. Enfin, il y a des histoires comme ça qui existent dans l'humanité. Et généralement, c'est considéré comme quelque chose de malheureux. Le pauvre homme, il est tombé dans... etc. Et c'est ça qui fait la souffrance. Cette nuit, j'ai pensé à ces choses-là et je me suis dit, on peut aussi le voir comme autre chose. On peut le voir comme une tentative d'émancipation. Hein? C'est-à-dire que l'homme, justement, par le fait d'acquérir cette capacité que les animaux ils ont pas, il a une mission d'une certaine manière d'aller plus loin, de se transformer, de vivre les choses autrement, etc. Et c'est ça le défi d'être humain, c'est comment tout en étant dans cette capacité de la connaissance, en même temps, retrouver l'harmonie avec le cosmos. Nous sommes, moi personnellement, que je suis dans le jardin, je vis ces choses-là, cette contradiction, cette tension qu'on a entre de poursuivre des buts de production, des buts de désir personnel et en même temps de cette aspiration de retrouver l'harmonie avec l'univers. On est dans cette tension et je crois que vivre cette tension, en fait, c'est la liberté. C'est d'être conscient et tendre à retrouver, puisque... la liberté, c'est quelque chose qui a quelque chose à voir avec l'harmonie. L'harmonie avec son environnement, avec les autres êtres humains, avec les autres êtres vivants, etc.
Mmh. Très bien. Alors, vous vous êtes intéressé à celui qu'on considère comme le précurseur de la permaculture, hein, Masanobu Fukuoka, et qui a écrit « La révolution d'un seul brin de paille ». À quoi avez-vous été sensible chez lui, Raymond ?
D'abord, pour moi, Fukuoka, ce qu'il a démontré, c'est une attitude, comment considérer son travail de paysan. Hein, Fukuoka, il était paysan. Bon, il était aussi ingénieur agricole, mais il a retourné à sa ferme familiale et il était paysan. Il a développé ce qu'il appelait l'agriculture naturelle. Et l'agriculture naturelle, pour lui, c'était plus... il a développé des techniques, etc., qui sont très intéressantes, mais en même temps... il a expliqué toute une attitude envers le travail, envers la terre, envers l'agriculture. Et il a appelé cette attitude l'attitude du non-agir. C'est quelque chose qui est présent dans la culture zen, cette notion de non-agir, ou mieux, agir sans agir. C'est quoi, hein? Mm-hmm. C'est quoi ce agir, non-agir? Fukuoka, il le développe d'abord sur un premier degré, où il dit... essayons d'expérimenter si on arrête de labourer, qu'on arrête de faire ceci ou cela, on arrête de faire quelque chose qui dans l'agriculture conventionnelle, est considéré comme indispensable. On arrête de mettre des engrais, on arrête... voilà. Ça, c'est le premier degré. Mais il y a un autre degré, c'est de respecter le non-agir, c'est ne pas agir, ne pas détruire déjà, ne pas détruire, puisque quand on fait une culture, on enlève toute la végétation qui est là et on replante une autre végétation, c'est-à-dire on détruit pour recultiver. Fukuoka, ce qu'il propose, c'est de laisser le plus possible les plantes se développer, créer des systèmes de culture à l'image de la nature, c'est-à-dire des systèmes diversifiés, des systèmes dans lesquels on intervient, mais on intervient comme un acteur parmi d'autres. C'est un peu comme un chef d'orchestre dans un jardin, c'est-à-dire qu'il y a toutes les plantes, toutes les animaux qui sont au-dessus ou en dessous de la terre, et le jardinier, il ne fait que intervenir d'une manière très minime. C'est ça le non-agir, et aussi d'une manière intuitive. C'est pas forcément, bien sûr, aussi réfléchir, il y a aussi une rationalité, mais en même temps il y a une intuition, c'est vivre en se connectant avec l'endroit et avec les êtres vivants qui sont là.
Oui, j'allais vous poser cette question et vous êtes en train d'y répondre un peu, ton entrée en communication intuitive avec son jardin, donc c'est bien ce que vous me dites là.
Oui, c'est... c'est une attitude que je vis et c'est quelque chose qui est de l'ordre. J'ai appelé ça une attitude de résonance, de rentrer en résonance avec le lieu et les êtres vivants qui sont là. C'est-à-dire que c'est une attitude qui n'oublie pas, enfin, comme on a vu, qui n'oublie pas que nous devons aussi nous nourrir de la terre, mais qui en même temps respecte ce qui est là. Et ça se passe au niveau sensible, bien sûr, et ça se passe aussi au niveau intuitif. Et... ça se passe aussi avec de l'observation. Et c'est tout ça en même temps. C'est-à-dire sur plusieurs niveaux. On n'est pas que dans le rationnel, on n'est pas que dans l'émotionnel, on n'est pas que dans l'intuitif. C'est un ensemble de choses qu'on développe pour finalement décider de son action et de le vivre.
Très bien. Alors, on fait une dernière pause musicale avec le morceau « Flirting with Space ».
She brought that again, baby. I'm always 30 in space, 30 in space. Take me out of the game.
En compagnie aujourd'hui du moine zen Raymond Dolbridge, qui nous fait part de l'expérience de toute une vie dans le jardinage à l'occasion de la parution de son livre « Sol vivant, parole vivante » aux éditions L'Originel Charles Anthony. Alors Raymond, quel lien établissez-vous entre notre nature physique et le soin à la nature ?
Pour répondre à cette question, je pense qu'il faut parler de la pratique du zen. Dans la pratique du zen, on fait une expérience du corps et de l'esprit, mais c'est très physique. Ça rentre dans le corps. C'est-à-dire, on a une autre sensation du corps que habituellement. On apprend à être complètement en harmonie avec le corps. Et quand on va dans le jardin, quand je sors de la méditation, et dans cette continuation, je me trouve dans le jardin. D'une part, au niveau physique, je suis influencé par cette expérience méditative, et je retrouve mon corps en harmonie avec moi-même. Ça m'amène à développer tous les gestes du jardin, qui sont multiples, mais qui mettent le corps en harmonie. Et en même temps, je développe cette sensibilité à l'extérieur, vers les plantes, vers le vivant, qui est aussi issue de cette expérience méditative, fait qu'on a un autre rapport, une autre qualité de résonance, comme j'ai dit souvent, avec ce qui nous entoure.
Alors, on parlait par exemple de la posture dans le zen, que l'énergie vient de la racine du gros orteil, comme en kin-in. Alors, peut-être nos auditeurs ne savent pas ce que c'est que la marche kin-in.
Oui, c'est une marche méditative qui est enseignée aussi dans le zen. C'est-à-dire, entre les périodes de méditation assise, on se lève et on marche d'une manière lente. Et particulièrement, on pose le pied et tout le poids du corps repose sur la racine du gros orteil. Ça fait donc référence à cette posture qui est une posture de base à partir de laquelle on peut développer tous les gestes de la vie quotidienne et trouver le bon geste du moment. Dans n'importe quelle situation, on apprend un peu automatiquement quand on pratique cette posture de kin-in, enfin zazen et kin-in, automatiquement on retrouve dans les gestes quotidiens l'harmonie du corps.
Très intéressant. Et Raymond, vous m'avez dit que vous aviez des projets.
Oui, depuis un an, je ne suis plus dans le jardin de la gendarmerie. Et j'ai développé un projet avec quelques personnes qui est de créer une communauté à la campagne. Nous sommes à la recherche d'un lieu que nous voulons acheter, qui sera un lieu de permaculture dans lequel on va essayer d'expérimenter une certaine autonomie, une certaine forme aussi de simplicité. Notre objectif, c'est de vivre une vie simple, hein, en cohérence avec le respect de la nature. Et cette démarche, ce projet s'appelle Zen sur Terre. On a un site qui s'appelle zen-sur-terre.org et là, on peut consulter notre démarche et notre projet. Et en ce moment, on est à la recherche du lieu, mais aussi à la recherche de personnes qui veulent participer, qui sont particulièrement... qui n'ont pas peur de mettre les mains à la pâte, voilà.
Les mains dans la terre, alors.
La main dans la terre, et aussi dans le bâtiment, et de travailler, de bâtir, et de bricoler, de développer des low-tech, etc., tout en étant dans une pratique du zen. Voilà, il y aura la méditation intégrée dans la vie quotidienne.
Ouais. Alors moi, je recommande chaleureusement ce livre. On y apprend des choses assez intéressantes. Par exemple, j'avais noté cette anecdote, mais les ions négatifs très faibles dans les salles remplies d'ordinateurs. Et c'est intéressant. De le pointer, hein, puisque on le sait, les ions négatifs nous font du bien. On peut les faire rentrer dans la maison après un orage. Et donc, Olivier, comme vous êtes là, Avez-vous une actualité, des projets à annoncer par rapport à votre maison d'édition ?
Oui, tout à fait. Ben déjà, par rapport au projet d'écolieu dont a parlé Raymond, il présentera lors d'une soirée de débat à la librairie Utopia, c'est dans le 5e arrondissement, le 15 décembre. Donc là, il discutera avec deux autres personnes qui sont des acteurs sur les écolieux. Donc, c'est une soirée qui est à retrouver sur le site Mouvement Utopia. Et puis, nous, au niveau de la maison d'édition, nous avons un projet d'un autre livre sur l'écologie pour l'année prochaine. Pour le moment, c'est pas encore complètement terminé, mais ce sera sur les plantes, la phytothérapie. Donc, c'est quelque chose qu'on continue à développer. L'idée d'entretenir un rapport plus sain dans notre vie quotidienne, c'est-à-dire, c'est quelque chose aussi qui alimente une démarche spirituelle, c'est d'avoir un corps qui soit... en état sain et épanoui.
Oui, puisque l'expérience du zen, c'est une expérience du corps et de l'esprit.
Mm-hmm.
Ça fait sens.
Tout à fait.
Une expérience totale. Très bien, ben, un grand merci à tous les deux pour votre venue et... Ça, vous aviez terminé, Olivier.
Oui, merci à vous, Louise. Merci beaucoup. Oui.
Oui, merci aussi. Hein. Très content d'avoir été ici avec vous.
Merci. Alors, donc, pour conclure, je voudrais citer cette phrase que j'ai trouvée dans votre ouvrage, que je trouve très belle. L'avenir de l'humanité est peut-être de retrouver d'une certaine manière le paradis. Je parle de cette connexion avec la nature que nous avons perdue. Alors, vous êtes sur Aligre FM 93.1 Paris dans Respiration. On se retrouve le 2 décembre pour une semaine thématique sur les identités, hein, dans le cadre de cette semaine thématique que propose Aligre FM. Je vous propose un thème sur la danse et respiration en prison et auprès de femmes victimes de violences. Ce sera une rencontre avec... l'artiste pluridisciplinaire Emmanuel Rigaud, qui viendra présenter le documentaire sur son travail « Pour qui danser ?», réalisé par Christelle Julien et filmé à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, et son spectacle « Accord de retrouvé ». Je tiens à remercier la technique, Enrico Mastro Giovanni, un jeune homme dont on ne m'a pas dit le nom, mais qui était Axel Aubry. Un grand merci à vous deux. Je vous souhaite à toutes, à tous une très belle journée et à bientôt.